Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Le terrain. Le sportif. Il
y a personne de safe ici dans la chambre. Parce que c'est pas un camp de vacances ici.
Quand tu viens à Montréal jouer devant 700, on te dit que tu viens jouer à l'Université de Montréal. You're gonna compete with the best against the best tous les jours.
Gagner beaucoup des trophées. Merci à Ibra Kadabra.
Moi, pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà.
So I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
I can't really hear what Jeremy says because I got my two Stanley Cup rings plug in my ear.
Le terrain, le sportif. Terrain. Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices, bienvenue au terrain sportif tous les lundis 10h30 midi sur les ondes de CSM, le 89,3, la plus grande radio universitaire francophone au monde. Également en rediffusion les lundis soirs 20h, 21h30 sur les ondes de CFAC, le 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke, dans la magnifique région de l'Estrie, à 1h30 environ de Montréal, pour ce qui est des locaux de diffusion de CFAC, qui sont à l'Université de Sherbrooke, bien sûr, c'est la radio de l'Université de Sherbrooke. Wissam Bensta en onde avec vous pour la prochaine heure et demie, et cette semaine, eh bien, on va parler Euro, on va parler Copa América, on va parler Alliance de Montréal, puis on va parler CF Montréal. On va commencer par le CF Montréal, d'ailleurs, dans quelques instants. Mais on a eu une finale, deux finales, en fait, continentales. La Copa América dimanche soir et, donc hier soir, et la finale de l'Euro entre l'Espagne et l'Angleterre dimanche après-midi. Et dimanche soir, c'était Colombie contre Argentine du côté de Miami. On va vous dire qu'est-ce qui s'est passé. On ne veut pas spoiler ça. Mais non, on veut que vous restiez sur les ondes de CSM, là, bien sûr, et de CFAC le plus longtemps possible. Donc, ça a été un tournoi très spécial, la Copa América. L'Euro également. Ça n'a pas été les meilleurs tournois qu'on aurait pu s'attendre. Personnellement, l'Euro, je l'ai trouvé quand même ennuyeux. J'ai trouvé qu'il n'y a pas eu énormément de surprises. J'ai trouvé surtout que le jeu était très ordinaire, mis à part quelques équipes. Comme l'Espagne, comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas parfois. Mais la France, très déçue, malgré que j'adore Kylian Mbappé. Le Portugal, extrêmement déçu. L'Angleterre, dans le jeu, en général, là, ça a été très mauvais. Je ne comprends pas comment est-ce qu'il y a des joueurs qui sont titulaires avec le meilleur club au monde à l'heure actuelle, peut-être, ou du moins un des deux, qui s'appelle Manchester City, qui ne sont pas capables de faire des passes en allant vers l'avant. Je parle ici, bien entendu, de John Stones, défenseur central de Manchester City. Je ne comprends pas. On a critiqué beaucoup Harry Maguire, parce que c'est à la mode, parce que c'est facile, etc., etc., nanani, nanana. Mais John Stones et d'autres défenseurs centraux qui, 9 fois sur 10, vont faire une passe soit latérale ou en arrière pour revenir au gardien. Et donc, c'est peut-être la première fois là, lors de compétitions internationales où est-ce que je me dis vraiment, là, pour quelqu'un qui n'aime pas le soccer, puis qui dit que c'est plate, puis qui dit que ça fake, puis qui s'ennuie, puis qui dit qu'il n'y a pas de but, c'est peut-être la première fois là, que je commence à être un peu en accord là, avec l'Euro surtout. La Copa América, c'était un peu mieux selon moi, mais la Copa América, ça c'est l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire beaucoup de fautes. Beaucoup de simulations, beaucoup de pertes de temps, des arbitres qui ont peur de certains joueurs, je ne vais pas les mentionner, des arbitres qui ne donnent pas de carton rouge pour des coups de tête sur nos joueurs canadiens, des arbitres qui engueulent nos joueurs comme du poisson pourri lors du premier match contre Canada-Argentine, mais qui permettent à d'autres, notamment un certain Rodrigo De Paul, d'aller parler avec les arbitres en permanence plus de 15 à 20 fois par match, sans, bien entendu, avoir le moindre avertissement possible. Donc, ce qui est bon pour Pitou doit être bon pour Minou également, mais ça n'est pas le cas dans la Copa América. Puis bon, je l'ai dit la semaine dernière, là, je vais le répéter, là, je m'éloigne un peu là, du CF Montréal, mais on va commencer dans quelques secondes avec ça. Puis il y a l'Alliance aussi, là, nos équipes québécoises. Je suis un peu tanné un peu là qu'il y a des équipes favorisées, puis que il y a des équipes de comment on peut dire ça, des joueurs polis bien élevés, qui sont respectueux, qui simulent pas toutes les deux secondes, notamment nous, le Canada, qui des fois jouent contre certaines nations de soccer, qui ont le couteau entre les dents et qui veulent en permanence influencer les arbitres. Et les arbitres, honnêtement, j'ai été déçu. Mais déçu de A à Z, de l'arbitrage en général. Il faudrait ramener là le bon vieux Polonais, là, Monsieur Polonais qui a arbitré la finale de France-Argentine. Ça, c'était un match quand même qui a été bien sifflé. Il n'y a pas de niaisage avec lui. Ce qu'il dit, c'est cash et ça fonctionne. Monsieur le Polonais, j'ai oublié son nom là. Je pense que c'est Marzicki avec le crâne rasé. Il fait un peu peur, là. Il fait un peu peur, l'arbitre polonais, là. Il faut bien le mentionner. Il y avait avant ça l'arbitre turc aussi qui était très respecté. Simon Marciniak. Monsieur Marciniak qui a fait la finale de Coupe du Monde 2018. Il dit quelque chose, c'est ça. Et puis souvent, comme c'est un Polonais, eh bien évidemment, il parle anglais. Je ne sais pas s'il parle l'autre langue. Mais les joueurs, ils communiquent avec lui en anglais. C'est simple, c'est cash. Il n'y a pas un arbitre qui vient d'un certain pays qui parle la même langue qu'une des deux équipes qui joue. Moi, j'ai jamais compris ça. Honnêtement, je ne le comprends pas. Comme quand il y a eu France-Uruguay en 2018, quart de finale. Je pense que c'était le 8e ou quart de finale, je ne m'en rappelle plus. Puis que c'était un arbitre argentin. Puis que tous les joueurs de l'Uruguay peuvent parler avec lui en anglais. Mettez-nous un arbitre qui est neutre au niveau des langues. Moi, j'aimerais un peu ça. Voilà, je suis vraiment dégoûté de l'arbitrage là. Voilà, c'est dit. Et je vais en reparler tout à l'heure, bien entendu, puisque c'est une émission qui dure 1h30. Maintenant, notre CF Montréal, ils étaient en action hier soir. On va en parler dans quelques instants. Mais c'était la conférence de presse avec le président et le chef de la direction du CF Montréal, Gabriel Gervais, ancien joueur du 11 montréalais. Ça se passait du côté du centre Nutrilait mercredi dernier. Et il a dit des choses intéressantes, M. Gervais. Notamment, il a dit qu'il voulait des joueurs qui sont avec le CF Montréal et qui sont là parce qu'ils veulent l'être. Il a également demandé à une prise de conscience chez certains joueurs de l'effectif du CF Montréal. Il a mentionné également là la défense, c'est-à-dire beaucoup de buts encaissés, notamment sur des phases de jeu arrêtées. Là, je crois que c'est 16 sur 46 qui est beaucoup. Le CF Montréal, bien entendu, c'est une des pires défenses de toute la Ligue. Au niveau offensif, quand même, les derniers matchs, ça l'a bien été. On va revenir sur celui qu'ils ont joué samedi contre Atlanta dans quelques instants. Mais c'était moitié-moitié. Il était satisfait parce que, notamment, les billets de saison ont tous été vendus cette année. Donc ça, c'est un succès pour le CF Montréal. Il a également parlé que les fans appréciaient leur expérience au Stade Saputo. Il a également mentionné que tous les matchs se sont joués à guichet fermé du côté du stade. C'est vrai que la plupart des billets étaient vendus probablement, mais il y a certains matchs où est-ce qu'il y avait beaucoup de sièges de libre, là, notamment celui contre Forge en milieu de semaine. C'était pas du tout un match sale comble, mais probablement qu'il parlait des matchs en MLS. Les finances vont bien côté CF Montréal avec les partenaires locaux et internationaux. Il a mentionné ça également. Puis surtout, il a reprécisé la philosophie du club, c'est-à-dire former des joueurs et faire jouer des joueurs locaux. On est avec ça, bien entendu. On apprécie ce côté-là du CF Montréal. Et dans la Copa América, le CF était une des deux équipes qui a le plus de joueurs qui représentaient certains pays. On avait Lasseter avec le Costa Rica, puis on en a plusieurs avec le CF Montréal. Piet, Waterman, Chouanière. Même si certains n'ont pas joué, on s'entend, ces joueurs-là sont des remplaçants. Il faut dire les choses également avec l'équipe nationale canadienne. Mais Chouanière a fait une petite entrée dans le match contre l'Argentine. Un match contre l'Argentine qui était très, très, très demi-finale perdue. On jouait contre les champions du monde. Le Canada a eu ses opportunités avec des attaquants, les mêmes attaquants qu'on a, c'est-à-dire Kyle Aaron et Jonathan David. S'ils sont un peu plus tueurs dans la surface de réparation, puis ils se dépassent un peu, on aurait eu l'occasion probablement de marquer des buts. Mais il va de soi que c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein, le Monday Night Quarterback, c'est toujours celui qui a raison après avoir vu les matchs, etc., etc. Dans ce match-là, Canada, on fait une petite parenthèse ici, là, Canada-Argentine, on a eu droit à l'ami Rodrigo de Paul, qui se sauve tout le temps avec une attitude exécrable. Probablement le joueur là, de tous les temps depuis que je regarde le soccer qui a la pire attitude en termes de simulation, en termes de provocation, en termes de toujours aller têter les arbitres. Il est vraiment détestable. Puis Ismaël Koné, lors d'une faute, parce qu'il s'est laissé tomber, bien entendu, hein, parce que Ismaël Koné l'avait à peine touché. Il est tombé par terre. Koné lui a kické le ballon sur le dos un peu, là, un peu. C'était anti-fair play de la part, c'était pas dans l'esprit de la part de Koné, mais on s'entend que ça ne fait jamais mal. Puis là, M. De Paul a commencé à se rouler par terre. Résultat, carton jaune pour Ismaël Koné. Je peux l'entendre, ça. Mais ce que je ne comprends pas, encore une fois, de la part de l'arbitrage, puis vous allez me dire que je fais une fixation avec ça, oui, je la fais et je l'assume. Coupe du monde 2018, Rakitic, le joueur croate, est au sol. La Croatie mène, donc évidemment, les Argentins sont de très mauvaise humeur. Il y a faute, l'arbitre siffle, Otamendi, défenseur central, un autre joueur très élégant, entre parenthèses, avec une très bonne attitude, entre parenthèses, kick le ballon de toutes ses forces sur le dos de Rakitic. Carton rouge? Non. Carton jaune. Coupe du monde 2022, la dernière, là. Argentine-Pays-Bas. Leandro Paredes, un autre joueur avec une attitude exceptionnelle, bien entendu, entre parenthèses, se permet de faire une faute qui mérite un carton jaune clair et net, et ensuite, prend le ballon, dégage, frappe le ballon de toutes ses forces sur le banc des joueurs de l'équipe nationale des Pays-Bas. L'arbitre, que fait-il? Carton jaune. Si ça avait été... Je vais faire attention à ce que je dis, là. Si ça avait été un joueur d'une autre équipe moins connue qui aurait fait ça, c'était rouge direct et sans aucune hésitation. Sans aucune hésitation. Donc, il y a certaines choses, parfois, qui sont douteuses. Parce que si... Ce dégagement sur le banc des joueurs, là, prendre un ballon, c'est comme si au hockey, tu prends la puck, là, puis tu la dégages sur la face d'un joueur. Mais OK, il n'y a pas de carton jaune, mais tu vas prendre probablement une éviction de match, là, ou je ne sais pas, un 10 minutes conduite antisportive, etc., etc. C'est ça le mot en français, conduite antisportive. Ça avait été un joueur de Taïwan qui avait fait ça, ou du Burundi, ou de la Bolivie, ou du Canada, ou de la Grèce, ou de la Suède, ou de l'Algérie, ou de Cuba, puis qu'il n'y a pas un certain Lionel Messi dans son équipe, puisque vous pensez que l'arbitre ne donne pas carton rouge? Voilà. Premier match, en passant, de nos amis de Messi, contre le Chili. Chili aussi qui ne se laisse pas faire, les Chiliens, c'est bien, qui ont quand même ce qu'on dit en français, là, la grinta en espagnol. Premier match, notre ami, oui, lui encore, Rodrigo De Paul, le joueur le plus anti-sportif que je n'ai jamais vu, tout sport confondu de tous les temps. Sean Avery, là, comparé à lui, c'est un prêtre. Sean Avery, c'est le pape, là. C'est Monsieur Paix. Il marche carrément sur le tibia d'un joueur chilien. Pas de carton jaune. Pas de carton rouge, et on ne va pas à la reprise vidéo. Donc voilà. Montée de lait encore une fois. Mais on va parler du match tantôt, Argentine-Colombie, on va en parler, puis faire une petite pause musicale bientôt, mais juste pour vous dire, on va continuer sur notre CF Montréal, on va revenir après pour parler du compte-rendu du match. Le CF, eh bien, on a fait l'acquisition d'un certain Tom Pierce, joueur anglophone, anglais plutôt, de l'Angleterre, qui a consenti un contrat pour le reste de la saison 2024, 2025 et 2026, assorti d'une année d'option en 2027. Donc, est-ce que c'est pour resserrer la défense et encaisser moins de buts, probablement? Là, je pense pas qu'il vient ici pour réchauffer le banc. Là, c'est un Anglais, quand même, de l'Angleterre. Donc, le pays qui aurait inventé le foot et qui a gagné la Coupe du Monde une fois chez eux. Et ce n'est pas Tom Pierce, le production designer, en pensant, là, c'est le joueur de soccer. Oui, c'est ça, les Anglais qui ont gagné la Coupe du Monde une fois en 1966 chez eux. Puis d'ailleurs, sur un but qui n'a jamais traversé la ligne en prolongation contre les Allemands. Donc, Tom Pierce, il est né à Ormskirk en Angleterre. Il a fait sa carrière de jeune chez Everton et Leeds United. C'est quand même pas de la petite bière, là. Il a joué pour Leeds United, Scunthorpe United et 75 matchs avec Wigan Athletic, qui est quand même un club là, qui a été en finale de la Coupe anglaise. Et il a joué avec l'équipe d'Angleterre des moins de 20 ans et de 21 ans. Donc, l'ami Pierce, il vient ici là, pour solidifier le tout. Donc, quelqu'un qui a déjà joué pour son pays, peu importe combien de matchs, quand puis quel type de sélection, c'est à prendre en considération. Et il a un trophée à son honneur. Eh bien, c'est le fameux tournoi de Toulon hein, qui se passe en été, là, après les saisons. En 2018, c'était avec l'Angleterre des moins de 21. Maintenant, ça s'appelle le tournoi Maurice Révélo. Et Maurice Révélo, là, les champions à l'heure actuelle, c'est l'Ukraine. C'est un tournoi là, qui a commencé en 1967, le tournoi Maurice Révélo. Provence, hein, ça se passe dans le sud de la France, pas très loin de la plage, où est-ce qu'il fait chaud. Donc voilà, le premier pays qui l'a gagné, c'est la Pologne en 1974. L'Argentine, ils l'ont gagné. La France l'a gagné énormément de fois. Donc qu'est-ce que ça donne? Eh bien, la France l'a gagné 13 fois, le Brésil 9 fois, l'Angleterre 7, avec notre ami, hein, il faut le mentionner, Tom Pierce, qui était là, le Portugal 3 fois, Colombie 3 fois, Bulgarie 2, Argentine 2, Hongrie 2, Mexique, un titre européen, c'est bien pour le Mexique, en 2012 une fois, l'Italie, l'Union soviétique, la Côte d'Ivoire, le Chili, la Serbie, la Pologne, la Belgique, le Panama et l'Ukraine. D'ailleurs, le Chili, avant qu'ils gagnent leur première Copa América, je crois, dans les environs de 2015, c'était la première fois de leur histoire. C'était le seul titre qu'ils avaient gagné, en fait, là, officiel. Ils avaient gagné le tournoi de Toulon. C'était quand même étonnant pour un pays comme le Chili, qui n'avait jamais gagné la Copa América, avec des bons joueurs quand même, surtout dans les années 90. On pense à Zamorano, Salas. Mais ils sont arrangés pour gagner ça deux fois contre l'Argentine de Lionel Messi. Et voilà, côté Copa América pour le Chili. Donc, on a parlé Copa América, on a parlé de l'ami Tom Pierce du côté du CF Montréal. On va revenir, on s'en va en musique, puis après ça, on revient. On va parler de ce qui s'est passé le week-end dernier avec le CF Montréal contre Atlanta United. Bougez pas. Il allait avec le CF Montréal, puisque le CF Montréal était contre une équipe qui avait gagné déjà la MLS Cup il y a de ça quelques années avec un ancien joueur de cette équipe qui joue maintenant avec le CF Montréal. J'ai nommé Joseph Martinez. Et cette équipe, c'est Atlanta United qui se déplaçait du côté du stade Saputo sans leur joueur désigné qu'ils ont vendu, M. Giagoumakis, le grec, qui marquait beaucoup de buts, qui a signé avec l'équipe mexicaine de Cruz Azul. Donc, il n'était pas là pour ce match-ci. Et ça l'a bien fait, les affaires du CF Montréal, puisque nous l'avons emporté ici du côté de Montréal avec la marque de 1-0 avec un but de notre latéral droit, le Brésilien Juan, qui marque d'ailleurs un deuxième but, là, je crois, à son deuxième match de suite côté du stade Saputo. Ça a été un match que le CF Montréal a quand même dominé, le CF a bien joué, a dominé son adversaire avec peu d'opportunités pour Atlanta United. Et après ça, en deuxième mi-temps, le numéro 5, Stian Gregerson, pardon, a obtenu un deuxième carton jaune, ce qui faisait en sorte que le CF jouait à 11 contre 10. Et à partir de ce moment-là, on a eu quelques opportunités de faire 2-0 et vraiment de tuer le match. Et on ne l'a pas fait. Et c'est ce que l'entraîneur-chef, à la fin, a mentionné là, du côté de l'entrevue d'après-match, M. Laurent Courtois. Il a été déçu un peu de cette gestion de match lorsqu'on avait le résultat et surtout l'homme de plus. Et Atlanta a eu des bonnes opportunités pour faire 1-1 et pour égaliser le match. Et finalement, heureusement pour le CF, ça n'est pas arrivé pour le 11 Montréal qui jouait pour un autre match. Je crois que ça doit faire 4 ou 5 sans trois titulaires indiscutables pardon, de l'équipe. J'ai nommé Mathieu Choignard, qui a joué le match pour la troisième place contre l'Uruguay. Également Samuel Piet, qui est parti avec le Canada, et Joel Waterman, qui n'a pas connu, je crois, une minute de jeu dans cette Copa América. Et quand même, malgré ça, le CF fait bien les choses lors de ses derniers matchs. On va commencer, avant de parler du dernier match, juste vous donner le 11 partant. C'était Sirois dans les buts, défense à 3 avec Sosa, Alvarez et Campbell. Piston à gauche, Raheem Edwards, qui est venu en entrevue d'après-match. Très gentil d'ailleurs, M. Edwards. Juan à droite, Victor Wanyama, le capitaine et le joueur désigné au milieu de terrain. Nathan Saliba également. Et les trois devant, Ariel Lasseter à gauche, Opoku à droite et Joseph Martinez dans l'axe pour le buteur qui n'a pas marqué. Malgré des bonnes opportunités, là, il faut le mentionner. Sur le banc, on peut avoir Vilsain, Duke, Toy, Corbeau et Coccaro qui sont rentrés pour faire essayer de faire bouger les cordages, mais ça n'est pas arrivé malheureusement puisque le match est terminé par 1-0. Sur le but de Juan, c'était Raheem Edwards qui a fait la passe, donc c'était le piston à gauche pour le piston à droite. C'était quand même un très beau jeu. C'était un beau but et Juan, c'est un des joueurs de la saison pour moi, le latéral brésilien qui parle très bien anglais d'ailleurs. Qui est là, qui marque des buts récemment, mais aussi qui fournit un travail colossal sur le plan physique avec ses courses, qui va en défense supporter la défense, qui va en attaque pour essayer de créer du danger, qui fait des appels. Il est très bon également en balle au pied. C'est pas là Roberto Carlos, on s'entend, mais il a quand même fait du travail de qualité, notre latéral droit brésilien, et on l'aime bien. Concernant le CF Montréal, là, ça fait, les choses vont un peu mieux, hein, puisqu'on peut le mentionner. On a seulement, lors de nos 4 derniers matchs, on a seulement perdu un match. Le dernier match était 1-1 contre Vancouver à domicile. On a perdu 2-0 en milieu de semaine de ça, il y a à peu près une semaine et demie, contre New York City. On a battu Philadelphie à Montréal 4-2. On a perdu contre le Colorado 4-1. Donc, quand on regarde là les derniers matchs à côté du CF Montréal, ça fait 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À nos 10 derniers matchs, on a seulement perdu 2 fois. Ce qui est quand même pas mauvais. Il y a beaucoup de matchs nuls là-dedans, certes. Mais c'est seulement 2 défaites dans les 10 derniers matchs. Donc, les choses vont bien. Et les 2 seules défaites dans les 10 derniers matchs ont été des défaites à l'extérieur. Donc, à domicile, la dernière défaite, ça remonte au 15 mai contre le Columbus Crew, 3-1. Et donc, au classement, qu'est-ce que ça donne pour le CF? Est-ce que le CF participe aux séries ou pas à l'heure actuelle? Et bien, à l'heure actuelle, le CF Montréal n'est pas dans une position pour participer aux séries éliminatoires, mais ils sont tout prêts. Les 9 premiers peuvent avoir accès aux places de séries éliminatoires. Le premier, Cincinnati, 48 points dans l'Est. Deuxième, Miami. Troisième, Columbus. Quatrième, New York Red Bulls. Suivi du cinquième, New York City. Charlotte, sixième. Septième, Orlando avec 30 points. 8e avec 27 points, Toronto. 9e, Nashville avec 26 points. Et le 10e, le CF Montréal avec 26 points. À égalité de points avec Nashville, mais ils ont une pire différence de buts, là, puisqu'on a marqué 32 buts. Et on a accordé 46 buts, donc c'est la pire défense dans l'Est, mis à part là, DC United qui ont accordé 48 buts. Mais ils ont joué un match de plus que le CF Montréal, puis ils ont le même nombre de buts. Donc c'est des équipes très similaires. Donc ça veut dire ça que la place pour les séries éliminatoires, ça va se jouer à la toute fin de la saison régulière, puisque toutes les équipes sont très serrées là dans l'Est. Quand on regarde Orlando qui ont 30 points, ils sont 7e, et le dernier c'est Philadelphie avec 21 points. Donc c'est 9 points de différence, et surtout quand on regarde le CF Montréal, 26 points, 10e. L'avant-dernier c'est 22 points, donc c'est seulement 4 points de moins. Et certaines équipes ont joué moins de matchs, notamment la Nouvelle-Angleterre, là, qu'ils ont 22 points, mais ils ont joué seulement 21 matchs, donc ils ont 2 matchs en main sur le CF Montréal. Donc, entre guillemets, ils ont le destin entre leurs mains. Maintenant, quand on regarde pour nos chouchous du CF Montréal, puisqu'on supporte notre équipe locale, les meilleurs buteurs à date, Ibrahim Sounoussi avec 6, Coccaro avec 4, Joseph Martinez avec 3, Lasseter en a 3, Chouanière 2, tout comme Duke, Juan et Jules-Anthony Vilsain et Dominique Yankov. Sounoussi qui n'était pas habillé pour ce match-ci, l'entraîneur en conférence de presse a dit, et ça m'a surpris, qu'il n'était pas satisfait de ce qu'il avait vu à l'entraînement de Sounoussi, et donc il avait décidé que Sounoussi allait passer le match, non pas sur le banc, mais dans les estrades. C'était quand même étonnant puisque c'est le meilleur buteur de la saison, puis il avait pas mal fait à date, mais bon, l'entraîneur sait des choses que nous ignorons, journalistes et fans. Les meilleurs passeurs du CF Montréal, Raheem Edwards avec 4, Lasseter avec 4, Martinez 3 et Juan avec 3 passes, et Jules-Anthony Vilsain, lui, a 2 passes. Et quand on regarde en termes de carton jaune, pour ceux qui s'intéressent, c'est bien George Campbell en a 7, Chouanière en a 5. Et trois joueurs de l'équipe du CF Montréal cette année ont obtenu des cartons rouges. Ryan Edwards, Ariel Lasseter et Nathan Saliba. Donc voilà, prochain match, CF Montréal, eh bien ça va se passer quand, chers auditeurs, chers auditrices? On a un certain Toronto FC qui débarque en ville et ça se passe samedi prochain. Le 20 juillet, 19h30, côté Stade Saputo. Et sinon, là, mercredi, eh bien, il y a les Red Bulls. Le CF se déplace du côté de Toronto pour un petit voyage d'avion d'environ une heure pour y affronter les New York Red Bulls. Ça va être un très bon match pour le bleu et blanc. Et puis, avec une victoire, on va se rapprocher pas mal des séries, même si on va devoir attendre un peu longtemps là, pour faire quoi que ce soit avec les séries. Maintenant, les meilleurs joueurs de toute la Ligue, de toute la MLS, eh bien, c'est Monsieur Cristian Arango avec 17 buts qui joue avec le Real Salt Lake. Benteke en a 14 de DC United. Et le Gabonais Denis Bouanga en a 14. Il joue avec Los Angeles FC. Et quant à Lionel Messi, eh bien, après avoir manqué autant de matchs, il est toujours à 12 buts. Donc, c'est le quatrième meilleur buteur de la Ligue. On a beaucoup de joueurs à 12 buts. Là, on a lui, Cucho Hernandez de Columbus, on a Bogutz de Los Angeles, Luis Suarez de Miami avec 12, Brian White de Vancouver avec 12, Jovelic de Los Angeles Galaxy avec 12 et Pitar Moussa du FC Dallas avec 12 buts. Les meilleurs passeurs de toute la ligue, eh bien, c'est Luciano Acosta, l'Argentin de Cincinnati qui a 15 passes décisives. Donc Cincinnati, ils sont chanceux là. Ils ont quand même un joueur de renommée, un des meilleurs joueurs de la MLS chez eux à Cincinnati. Donc j'espère qu'ils ont qu'ils sont conscients d'être chanceux d'avoir ce joueur-là. Parce que nous, ici, du côté du CF Montréal, on le prendrait demain matin. Monsieur Luciano Acosta, très petit de taille d'ailleurs, mais qui fait tout un travail. Résultat de la MLS pour le week-end dernier, on va y aller en rafale. DC United 2, Nashville 1, Toronto 2, Philadelphie 1, la Nouvelle-Angleterre perd 3-1 à domicile contre Orlando, Charlotte bat Cincinnati à l'extérieur 3-1, Vancouver s'impose à Saint-Louis 4-1, Houston-Minnesota 1-1, Seattle s'impose à Austin 1-0, Chicago-New York 0-0, Dallas 2, Los Angeles Galaxy 1-0, Colorado Red Bulls 1-1, Portland avec notre ancien gardien de but, James Pantemis, qui fait le travail pendant que l'ami Maxime Crépeau est avec l'équipe nationale du Canada. Ils l'ont emporté 3-0. Kansas City 2 sur la pelouse de San Jose 1. Et Columbus qui s'impose, mais d'une façon claire et nette, chez un très grand club à Los Angeles FC, 5-1 pour l'ancien entraîneur-chef là, de l'équipe du CF Montréal, j'ai nommé Wilfried Nancy. Et quand, en ce qui a trait aux Portland Timbers, eh bien, les deux derniers matchs avec James Pantemis, c'est 3-0 contre Salt Lake et 4-1 contre Nashville. Donc, ça se passe bien pour l'ami québécois Pantemis, là, qui a été très utile au CF Montréal pendant plusieurs mois, là, pendant qu'il était là, malgré sa blessure après ça, qui a donné la place à Jonathan Sirois. Petit commentaire d'après-match. On va y aller en rafale ici, là, avec les amis du statistique, les amis des statistiques. Ariel Lasseter a disputé son 140e match en MLS et George Campbell et Mahalao Pukku ont joué leur 80e match en MLS. Le CF Montréal a établi un nouveau record pour le nombre de matchs à guichet fermés dans une même saison, dépassant le record de 2016, puis ça inclut l'époque pré-MLS. Donc c'est une très grosse nouvelle pour le CF Montréal, mais on le sait que c'est en très grande partie dû, là, je l'ai dit tantôt, à la venue de Lionel Messi. Donc, beaucoup se sont procurés des billets de saison afin de pouvoir voir le prodige argentin. Et malgré ça, il faut mentionner que, malgré après que Lionel Messi soit débarqué à Montréal, en général, malgré que les gens ont acheté des billets de saison, ils ont quand même utilisé leurs billets de saison. Et puis, il n'y a pas eu beaucoup de matchs où est-ce que c'était un peu... Ou est-ce que tout le monde n'était pas là? Parce que vous savez que les statistiques pour les billets vendus, c'est les billets vendus. Donc, si tous les billets sont vendus puis la moitié décide de ne pas venir, ben, on aurait tendance à dire que c'est un sale compte, mais ça n'est pas le cas, là. Mais dans ce cas-ci, La plupart des matchs pour le CF Montréal étaient quand même pleins, puis il n'y avait pas beaucoup de sièges de libre, sauf le match contre Forge FC là, en milieu de semaine avec une température atroce. Cette série sans revers égale un record de club en MLS établi en 2012, 2013, 2021. Je l'ai mentionné tantôt, là, on n'a pas eu de revers depuis très longtemps pour le CF Montréal. Le CF n'a pas accordé de tir cadré pour la 9e fois de son histoire en MLS, une première cette saison. Et petite déclaration de Raheem Edwards, il a dit « Nous avons mis l'accent sur le fait de débuter le match en force ce soir, nous voulions rester cohérents tout au long du match. C'est ce que nous avons fait la plupart du temps. On n'a toutefois pas eu l'impression d'être en supériorité numérique à certains moments. Nous rapportons les 3 points, mais c'est un peu décevant. Parfois, lorsque nous perdions le ballon, je n'étais pas en bonne position, mais cela nous a été bénéfique en général. » Donc voilà, c'est ce qui conclut pour le CF Montréal. On est satisfait de la performance. C'était une belle performance et ça fait quelques matchs que ça se passe bien au Stade Saputo, surtout que c'est agréable à regarder. Il y a eu une phase, il y a quelques temps de cela, que c'était un peu décevant voir des matchs du CF Montréal. Il n'y avait pas d'action. Des fois, ça arrivait que c'était l'équipe qui visitait, qui faisait le jeu, mais c'est arrivé également des fois que les deux équipes, celle du CF et celle qui visitait, qu'il n'y avait aucun jeu, que ce soit ennuyeux et que certains spectateurs finissent par huer le club en fin de match. Et il faut quand même le mentionner, c'est pas arrivé souvent depuis que je suis le CF Montréal que les fans huent leur propre club. Donc c'est quand même intéressant de voir que nous avons des fans dédiés et des fans qui supportent leur seule équipe de soccer professionnelle de la province de Québec, une des trois au Canada avec Toronto FC et les Vancouver Whitecaps. Sur ce, on va faire une petite pause musicale et on revient après ceci avec un peu d'Euro et un peu de Copa América. Bougez pas. De retour sur les ondes de CSM et de CFR, vous écoutez l'émission Le Terrain Sportif. Le titre le mentionne, c'est l'émission hebdomadaire de sport sur les ondes universitaires. On parle de toutes sortes de sports. Et cette semaine, on est beaucoup dans le soccer, puisqu'on le sait, deux finales continentales se sont jouées hier, soit dimanche le 14 juillet. Et j'étais du côté de l'île montréalaise pour voir ce match dans le Mile End, dans un petit café sympathique, bondé, mais c'était quand même sympathique. On va commencer par l'Euro, avec l'Angleterre qui jouait contre l'Espagne. On le sait, l'Espagne, c'était probablement la seule équipe, puis je vous demanderai à beaucoup d'experts, là, ils vont vous dire probablement la même chose. C'était la seule équipe, avec l'Allemagne peut-être, qui ont produit du beau jeu chaque match. Ce sont les deux seuls. Le Portugal, ils ont gagné, mais ça a été ordinaire, malheureusement, je l'avoue, parce que je suis un très grand fan de l'équipe nationale du Portugal. Ils ont déçu dans le jeu. La France, pareil. Les Pays-Bas, on pourrait peut-être la mettre comme troisième équipe qui ont joué certains bons matchs. L'Italie, très moyen. Quoi d'autre? L'Angleterre, catastrophique avec les joueurs qu'ils ont. Avec Monsieur Humilité, là, Gareth Southgate, qui n'est pas capable de gagner un trophée, qui perd des finales, qui perd des demi-finales. Avec l'équipe qu'ils ont, c'est tout simplement inconcevable. Et la Belgique, ça a été coussi-coussa, là. Bon, si Lukaku avait marqué les 3 buts qui ont été refusés pour offside, ça aurait peut-être changé la donne. Mais ça reste que c'était une finale avec une équipe qui méritait énormément, soit à l'Espagne, et une équipe qui s'est rendue là à cause de certaines individualités, notamment Jude Bellingham, entre autres. Et ce match-là, eh bien, il a été remporté par l'Espagne et ça a été une victoire méritée. On a l'équipe qui a produit le plus beau jeu de toute la compétition a gagné. Une équipe dans laquelle il n'y a pas de vedettes. Quand on regarde le 11 initial là, qui se passait côté Berlin hier, dans les buts, Unai Simon, il joue à Bilbao. C'est un club correct, là. Robin Lenormand, il joue à Sociedad. Laporte, il joue en Arabie Saoudite, je crois. Avant, il joue à Manchester City. C'est un très bon défenseur. Marc Cucurella, je pense que c'est Chelsea. Daniel Carvajal, lui, c'est vrai, c'est le latéral droit du Real Madrid. Donc, c'est quand même un très grand joueur. Rodri, très grand joueur de Manchester City. Donc, quelques vedettes. Mais à part ça, Fabian Ruiz, milieu de terrain correct du PSG. Dani Olmo, milieu correct. Nico Williams et Lamine Yamal, les deux petits jeunes garçons. Lamine Yamal qui, pour fêter ses 17 ans, a quand même remporté un titre de champion d'Europe, ce qui arrive presque jamais. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, il a 17 ans. Et en plus, il s'est permis de faire une petite passe décisive pour son ami Nico Williams. Et en attaque, on avait bien sûr Alvaro Morata, qui est un bon joueur. Mais il n'y a pas de Mbappé, il n'y a pas de Kane, il n'y a pas de Bellingham. Il y a Rodri, qui est le joueur du tournoi qui a remporté le titre de joueur du tournoi. Puis c'est quand même mérité, puisqu'on parle ici d'un milieu défensif. Puis généralement, ces titres-là sont surtout donnés à des joueurs offensifs. C'est dire à quel point cette équipe d'Espagne, elle a été séduisante, elle a été ravissante et elle mérite sa victoire. Sa troisième d'ailleurs depuis les années 2000, ils l'ont gagné en 2008, en 2012. Et là, il la remporte une autre fois, le quatrième titre en 2024. Les buts ont été marqués à la 47e minute par Nico Williams, une passe de Lamine Yamal. À la 73e minute, Cole Palmer, qui joue à Chelsea, ancien joueur de Manchester City, avec une passe de Jude Bellingham, faisait 1-1. Et à la 86e minute, Marc Cucurella, j'ai de la difficulté à le prononcer, pardon, avec Mikel Oyarzabal, qui marque pour faire 2-1. Et le joueur de San Sebastián dans le Pays Basque donne l'euro à son pays qui est l'Espagne et on est content pour eux. Lamine Yamal a été nommé meilleur joueur, meilleur jeune joueur de tout le tournoi. C'est très mérité, honnêtement. Il aurait pu peut-être gagner même le meilleur joueur de tout le tournoi, mais généralement on sait là, quand c'est un quand c'est un jeune, c'est rare qu'un jeune de 16 ans ou même 17-18 va gagner le meilleur joueur du tournoi, surtout pour un tournoi majeur. On ne parle pas ici d'un tournoi avec des moins de 20 ans ou des moins de 17 ans. Et pour l'Espagne, eh bien, ils avaient remporté l'Euro. Ils l'avaient déjà remporté en 1964 contre l'Union soviétique, 2-1. Et mis à part ça, eh bien, il a fallu attendre 2008, 2012 et maintenant 2024 pour avoir le quatrième titre. Et c'est l'équipe qui a remporté le plus de titres à l'Euro. L'Italie également, ils en ont gagné quelques-uns en 1968 et en 2020, pardon. Et donc l'Allemagne 3 titres, l'Italie 2 titres, la France 2, la Russie 1, la République tchèque 1, le Portugal 1, la Slovaquie, ils ont remporté un titre en 1976, mais à l'époque ça s'appelait la Tchécoslovaquie, donc c'était la Tchécoslovaquie, ce qui est aujourd'hui la République tchèque et la Slovaquie. Les Pays-Bas en 1988, le Danemark en 1992 et la plus grande surprise de tous les temps en termes de compétition de soccer de pays, eh bien c'est la Grèce qui a remporté l'Euro en 2004 avec une équipe, il faut le dire quand même, qui était correcte, là, qui avait de la gueule. Et l'Angleterre, eh bien, c'est sa deuxième finale à l'Euro 2020-2024 et les deux fois, eh bien, les finales ont été perdues. Il y a deux autres équipes qui ont perdu, qui ont participé à une finale sans jamais la gagner. La Serbie en 60 et 68. À l'époque, c'était la Yougoslavie et la Belgique en 1980. Ce sont les trois seules équipes à avoir participé à une finale de l'Euro sans jamais l'avoir gagnée. Et on tient également à mentionner les deux chansons francophones qu'on vient d'écouter. Avant ça, c'était Méditerranée de Junior et également Holden avec sa chanson intitulée Madrid, pour rendre hommage à la capitale espagnole qui, encore une fois, a remporté un trophée majeur quelques mois seulement après que le Real Madrid remporte la Ligue des Champions. Maintenant, on va y aller avec la Copa América, qui est ce tournoi qui se passait du côté des États-Unis, avec comme finale, eh bien, une Argentine qui affrontait une séduisante Colombie dans la ville de Miami, dans le sud des États-Unis, dans l'État de la Floride. Un match qui a été retardé d'ailleurs à cause qu'il y a eu un peu de cafouillis avec les membres de la sécurité. Il y a des gens qui ont essayé de rentrer qui n'avaient pas de billet. Bon, c'était des gens qui avaient déjà planifié ça, bien entendu. Et pour s'assurer de la sécurité des fans, des spectateurs quand ils entraient dans le stade, on a décidé de retarder ce match-là d'environ 45 minutes. Donc, ça s'est terminé environ à minuit, heure du Canada, heure de Montréal plutôt. Et l'Argentine qui jouait contre une Colombie vraiment excellente, vraiment géniale, avec un James Rodriguez qui avait fait que du bon cette Copa América. D'ailleurs, il avait, je crois, 5 passes décisives et un but, ce qui est exceptionnel pour un joueur en si peu de matchs. Il n'a marqué qu'un seul but. Je crois qu'il prend d'ailleurs les pénalties. Mais en termes de passes, eh bien, il a fait 6 passes. Donc 6 passes et un but. Je crois que c'est un record pour une compétition là, continentale d'une équipe nationale. D'ailleurs, c'est le seul qui a fait des passes avec la Colombie, qui a plus de 2 passes. Les autres sont John Córdoba, Daniel Munoz et John Arias. Et lors de ce match, eh bien, ils affrontaient l'Argentine de Lionel Messi. L'Argentine qui a eu le parcours beaucoup plus facile puisqu'ils ont joué Canada, ils ont joué Équateur, ils ont joué Chili et Pérou. Alors que du côté de la Colombie, eh bien, on a dû affronter le Brésil, on a dû affronter l'Uruguay. Donc ce sont deux très grandes équipes au niveau sud-américain. Et lors de la finale, eh bien, la Colombie a dominé son adversaire. Ils ont eu les plus grandes opportunités du match, surtout en première mi-temps, puis une partie de la deuxième. Après ça, vous comprendrez que le match s'est allé en prolongation puisque ça s'est joué après 90 minutes, c'était 0-0. Et là, eh bien, quand on a commencé à voir les remplaçants des deux côtés, on a clairement réalisé que bon, l'Argentine est un plus grand bassin de joueurs que la Colombie. Puisque quand tu fais sortir certains joueurs, notamment Messi qui a été blessé, qui est sorti à la 66e minute. Donc c'est quand même bien qu'on l'a vu du côté du Stade Saputo. Parce que là, je ne sais pas c'est quand qu'il va rejouer avec Miami. Il avait sa cheville était enflée. On a vu les photos. En tout cas, il y avait de la glace dessus. La cheville ou le pied, là. Donc moi, on peut dire qu'on l'aura vu ici. Puis il ne sera pas très déçu. Puisqu'ils ont gagné la Copa América avec un but de 1-0 de Lautaro Martinez. Mais quand on regarde ceux qui sont rentrés du côté de l'Argentine, on a Otamendi qui est défenseur central à Benfica. On a Martinez qui est un des meilleurs joueurs de la Ligue italienne. Paredes qui joue à la Roma. Puis on a Nicolò Gonzalez qui est un très bon joueur de la Fiorentina. Et quand on regarde qui est rentré là, du côté de la Colombie, eh bien, Castaño, Carrascal, Uribe, Borja, donc certains des joueurs corrects, certains qui jouent en Russie, d'autres comme Quintero, qui c'est le remplaçant de James Rodriguez, qui joue au Racing Club en Argentine. C'est un bon joueur, mais c'est pas du niveau de l'Argentine. Et malheureusement pour l'Argentine, eh bien, John Córdoba, l'attaquant, il s'est fait remplacer. Luis Diaz et James Rodriguez. Donc tous les joueurs se sont fait remplacer, sauf les 4 défenseurs et le gardien de but. Et quand tu perds Luis Diaz qui est un des meilleurs joueurs de la Ligue anglaise et James Rodriguez qui est ton capitaine et ton meilleur joueur probablement de l'équipe, le maestro, celui qui dirige le jeu, ça a fait une grosse différence. Après ça, la défense colombienne s'est un peu laissée endormir, comme sur le but de Lautaro Martinez, le numéro 22, qui a fait 1-0 et ça s'est terminé comme ça en deuxième période de prolongation et l'Argentine, la Colombie n'a pas pu égaliser par la suite. Avec, on s'entend, un arbitrage correct. On peut pas blâmer l'arbitre pour le résultat de ce match-là. Ça a été bien arbitré. Mais à la fin du match, on a vu les deux moineaux, l'habituel Paredes et De Paul, avec une attitude exécrable, comme à l'habitude. Ça ne change pas. Et encore une fois, dans ce match-là, Monsieur De Paul, Rodrigo De Paul, numéro 7, encore lui. Eh bien, attitude exécrable et surtout est allé parler avec l'arbitre au moins 20 fois durant dans le match. Aucun joueur comme ça n'a pu faire ça, là. Donc, depuis que je regarde le soccer, fait à peu près 20 ans, j'ai jamais vu un joueur parler autant avec les arbitres. Il y en a qui parlent de temps en temps et puis de façon vigoureuse. Mais parler après chaque décision qui va contre son équipe, je n'ai jamais vu ça. Donc, voilà, félicitations à l'Argentine qui gagne un autre titre de Copa América. La Colombie a été de loin l'équipe la plus séduisante du tournoi. C'est l'équipe qui a eu le parcours le plus difficile. C'est l'équipe qui a le mieux joué. C'est l'équipe qui méritait sur ce match-là. Mais malheureusement, pour les fans de la Colombie, les dieux du foot ont décidé que cette Copa América allait à l'Argentine. Puis aussi, on peut mettre entre parenthèses le carton jaune complètement injuste et stupide. Et peut-être douteux de Vinicius Junior lors des 5 premières minutes, je crois, contre la Colombie sur sa première faute. Alors qu'on sait très bien que dans le soccer, à moins que ce soit une première faute très grossière, les joueurs n'ont jamais de carton jaune. Mais pour Vinicius, on lui a donné ça très rapidement. C'est louche parce qu'on sait très bien que, bon, peut-être que certaines équipes qui voulaient favoriser le parcours de certaines équipes. Donc, je dis ça, je dis rien. Mais voilà, félicitations à l'Argentine pour sa Copa América. Puis là, tous ceux qui disent que les arbitres les aident à faire gagner, puis blablabla. On peut pas dire que On peut pas dire que cette Copa América, il mérite amplement. On peut pas dire que la Copa América qu'ils ont gagnée contre le Brésil, il méritait. La Coupe du Monde, on peut dire qu'il la mérite. Mais sur ce tournoi, là, j'aurais aimé voir la Colombie remporter le trophée tant attendu du côté des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, je pensais à ça pour ceux qui aiment les petites statistiques, les petits faits saillants. Je les ai pas regardés, mais je m'en rappelle. Je crois que ça fait trois finales continentales ou trois finales mondiales qui se passent du côté des États-Unis. Et en 1994, on avait Brésil contre l'Italie. Ça s'est terminé 0-0. Ensuite, on a eu la Copa América, la dernière, la 2016, entre le Chili et l'Argentine du côté des États-Unis. Ça s'est terminé 0-0. Et là, on a cette compétition aujourd'hui qui se termine 0-0 en temps réglementaire. Donc, il n'y a pas beaucoup de buts qui se marquent dans les finales du côté des États-Unis là, quand c'est des grosses compétitions continentales. Donc, peut-être que la finale de Coupe du Monde 2026, un petit scoop comme ça, là, si vous avez à parier. Peut-être parier sur un 0-0 entre les deux équipes qui vont s'affronter. Là. C'est un peu de blabla, mais ça reste que c'est quand même assez curieux. Donc, en termes de Copa América, avec ce titre de l'Argentine, 16 titres, les derniers titres 2024, bien sûr, hier. Sinon, 2021, mis à part ça, là, ça il faut remonter à 1993. L'Uruguay en a 15. On s'entend que l'Uruguay et l'Argentine, là, ça a surtout commencé avec eux. 1921, 1916. Bon, l'Uruguay, c'est pas compliqué. 1916, 1917, 1920, 1923, 24, 26, 35, 42, 56, 59, 67, 83, 87, 95, 2011. Donc, on s'entend que c'est plutôt à l'ancienne. Donc, les équipes qui ont gagné beaucoup de titres récemment, ben, le Brésil depuis les années 2000 en a 3, 2004, 2007, 2019. Il faut se rappeler aussi que c'est une compétition sur 4 ans. Le Chili depuis les années 2000 en a 2, 2015, 2016, 2 années de suite. Et l'Argentine, eh bien, depuis les années 2000, ils en ont 2. L'Uruguay en a 1. Et la Colombie avait gagné le tournoi seulement une fois en 2001 lorsqu'elle l'a organisé. Et la Bolivie en 1963, le Pérou deux fois également. Donc toutes les autres équipes qui ont participé, qui n'ont jamais gagné, Mexique, Honduras, Équateur, Venezuela, États-Unis et le Canada. Voilà. L'Honduras a quand même fini troisième à la Copa América de 2001 là, du côté de la Colombie. C'était une finale Colombie-Mexique. Le Mexique, on sait, là, en termes de titres pour les très grosses compétitions, c'est pas très fameux. Eh bien, c'était Ivan Cordoba qui avait marqué, le joueur qui a joué plus de 324 matchs avec l'AC Milan à la 65e minute. Estadio El Campín, du côté de Bogota, 47 000 spectateurs. Et Ubaldo Aquino, du Paraguay, était l'arbitre. Meilleur buteur, c'était un Colombien, Victor Aristizabal, avec 6 buts. Lui qui a joué un peu partout, là, il s'est promené pas mal partout, en Colombie, au Brésil, en Espagne, zigazon, zinzon. Donc, il est allé partout, l'ami, là, Aristizabal. Donc, voilà, pour la Copa América, ça va faire du bien. On va parler un peu moins de soccer, parce que deux grosses compétitions qui se sont terminées. Ça a fait beaucoup de temps d'écran, puis il fallait terminer ça là. Donc les meilleurs buteurs de la compétition de la Copa América, c'est Lautaro Martinez avec 5, sinon Salomon Rondon du Venezuela en a 3. Donc Martinez qui était le meilleur buteur avant la finale, mais qui ne jouait pas au profil de Julian Alvarez, mais les deux semblent avoir une bonne relation. Mais bon, on sait que du côté de l'Argentine, on fait plus souvent confiance à Julian Alvarez, même si Lautaro Martinez marque beaucoup plus de buts avec son club européen. En termes de passes décisives, bien, j'ai dit, c'est James Rodriguez avec 6. En termes ensuite de... qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme statistique de clean sheet? Eh bien, Emiliano Martinez en a 5, puisqu'il a encaissé un but, je crois, contre... l'Équateur, sinon c'est pas mal le seul but qui a encaissé. Rochette en a 3, Crépo a 2 clean sheets, hein, contre le Pérou et contre le Chili. Donc félicitations à l'Argentine, là, probablement qu'il va avoir un match de finale continentale entre l'Espagne championne d'Europe et l'Argentine championne d'Amérique du Sud. Puis c'est pas mal ça pour la Copa America. Donc, l'Argentine, encore un autre titre. Et si on parle de titre, eh bien, un titre qu'on pourrait avoir au Canada, eh bien, c'est l'Alliance de Montréal, qui pourrait aller chercher un championnat canadien lors du Weekend Championship qui va se passer à peu près le 10 août du côté de l'Auditorium de Verdun. Eh bien, malgré ça, l'Alliance de Montréal, qui est déjà qualifiée pour ces demi-finales-là, puisqu'ils reçoivent le tournoi, eh bien, on enchaîne les défaites, là, 84-76, contre le Ottawa Blackjack, et ça se passait du côté de l'Auditorium de Verdun. Donc, c'est défaite après défaite après défaite. Là, on regarde ça, là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À nos 10 derniers matchs, on a 8 défaites pour 2 victoires. Donc, les deux victoires étant à domicile, mais quand même, ça va pas très bien côté l'Alliance de Montréal, mais on sait que c'est une équipe qui est là surtout pour avoir une équipe de basketball pour que les gens puissent aller voir ça, se familiariser avec le basketball. C'est pas un public qui est très exigeant. On aime ça quand l'Alliance gagne, mais quand elle ne gagne pas, il y a très peu de personnes qui huent l'équipe. Donc quand même, la foule a gardé une bonne attitude encore une fois contre Ottawa dimanche. Mais là, il va falloir commencer à gagner des matchs parce qu'on aimerait ça au moins peut-être rivaliser pour au moins une bonne partie du match lors de la demi-finale qu'on va recevoir du côté de l'Auditorium de Verdun. Donc voilà, sur ce, on va faire une petite pause musicale et on revient après ceci. Vous écoutez l'émission hebdomadaire de sport Le Terrain Sportif sur les ondes de CFAQ et CISM. De retour sur les ondes de CSM et de CFAQ, vous écoutez l'émission Le Terrain Sportif. On arrive à la fin de l'émission. On va vous présenter les trois dernières chansons, puis après ça, on va vous donner une petite actualité de sport universitaire. Donc, c'était La Reine d'Angleterre de Catherine, Canada de Félix Diot, feat Virginie Beauregard et Recommencer de Hubert Lenoir. Trois artistes de chez nous, bien entendu. Une petite actualité d'aviron canadien. Là, les rameurs canadiens ramènent 5 médailles des championnats du monde universitaire d'aviron de la FISU. Ça, c'est du sport universitaire canadien, bien entendu. Donc, les rameurs canadiens ont fait montre de leur talent aux championnats du monde universitaire d'aviron de 2024 disputé à Rotterdam, aux Pays-Bas, alors qu'ils ont accédé au podium à 5 reprises et ont habilement composé avec de forts vents arrière pour s'accaparer des meilleures positions au classement. Donc, en tête du contingent canadien se trouvaient Sally Jones et Ilza Dawson en deux de pointe féminin, et celles-ci ont raflé l'or en vertu d'une avance de 6,35 secondes sur l'Autriche et la Lituanie. Et le 4 masculin composé de Julian Black, Axel Ewashko, Sam Stewart et Aiden Della Siega a remporté l'argent à la suite d'une course serrée avec l'Italie, tandis que la Pologne a obtenu le bronze. Et en skiff, poids léger masculin, Giancarlo Di Pompeo s'est retrouvé en tête avant de voir l'Italie terminer en force et aller chercher l'or, tandis que le Canada a décroché l'argent et les Pays-Bas la médaille de bronze. Donc, on félicite nos athlètes canadiens et canadiennes pour ces belles médailles, puisque vous le savez, il y a des jeux, des championnats du monde universitaire, là, les Universiades, je crois que ça s'appelle en français, qui se passent chaque année. Et c'est intéressant, Patrimondo, l'entraîneur des Carabins de l'Université de Montréal, a déjà participé à ça. Et c'est les meilleurs athlètes dans les universités à travers le monde qui s'affrontent, pas nécessairement par université, mais par pays. Et donc, il y a un peu de patriotisme là-dedans. Puis c'est quelque chose qui n'est pas du tout médiatisé là, dans les médias traditionnels. Donc, on essaye d'en parler un peu. On pourrait même faire une émission un peu spéciale là-dessus. Ou pourquoi pas avoir des entrevues comme avec Nathan Siméon la semaine passée, quoi. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait cette émission du Terrain Sportif. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était Wissem Bensta au micro. Je vous souhaite une excellente semaine sur les ondes de CSM et de CFAQ. Et nous, on se revoit eh bien lundi prochain, 10h30 midi sur les ondes de CSM et 20h-21h30 sur les ondes de CFAQ. Bonne journée, bonne semaine et au revoir.